Welcome to Greendale's Drug Awareness Show!
I finally have a case of lupus.
Lester, is this what you want?
Mr. Buckland, we are the sexual revolution.
What is up with the sex? It's all anybody thinks about anymore. Sex, sex, sex. What is the big deal?
Call it.
Are you right?
Yeah.
Yeah?
Are we having fun yet?
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Bienvenue, c'est déjà le sixième épisode de cette saison 3 de votre émission qui vous parle série et télé et pas n'importe comment, vous le savez. On va, comme chaque semaine, démarrer avec une petite revue des pilotes que tu as pu voir durant ta semaine de congé notamment.
Et oui, pour ceux qui nous suivent, en effet, on a eu une semaine de pause. Bon, alors, pour commencer, je vais parler d'une série CW qui s'appelle My Crazy Ex-Girlfriend, qui vient donc de commencer il y a à peu près un mois. J'en ai vu deux épisodes pour le moment. Le principe, c'est quoi ? C'est... une comédie bien souvent musicale qui va nous proposer de suivre une femme un petit peu particulière puisque elle est un peu folle. Et elle est tellement folle que après avoir rencontré par hasard dans la rue un amoureux de jeunesse qu'elle n'avait plus revu depuis une bonne dizaine d'années, elle va décider sur un coup de tête de tout abandonner, sa carrière florissante et puis aussi sa famille et l'endroit où elle vit pour aller de l'autre côté des États-Unis où il lui a annoncé qu'il déménageait lors de leur rencontre. Évidemment, tout ça sous un prétexte bidon pour surtout pas faire croire que elle le harcèlerait, hein.
Elle tombe là par hasard, quoi, en gros.
Voilà, c'est totalement par hasard qu'elle va vivre exactement dans la même ville que lui. Je dois dire que c'est vraiment, vraiment sympathique comme série. C'est assez surprenant, surtout au début, quand on s'attend pas à voir autant de morceaux chantés dans une série. On a eu l'exemple de Galavant l'année passée, c'est vrai, mais ici, c'est un format un peu plus long puisque c'est un format 40 minutes et la première fois, on est quand même un petit peu surpris. Mais pour ceux qui adhèrent à ce genre-là, et j'en suis, eh bien c'est un vrai plaisir parce que les textes sont particulièrement savoureux, plein de petits sous-entendus, et on sent que derrière la grande fête qui nous est présentée, il y a aussi pas mal de souffrances, éventuellement aussi de vrais problèmes psychologiques qui se cachent. Et donc on peut attendre pas mal de cette série-là, me semble-t-il, à voir si ça se confirme. Mais c'est vrai que c'est une des nouveautés en laquelle je place le plus d'espoir, sachant que il y en a déjà énormément que j'ai laissé sur le bord de ma route.
Voilà, un peu de fraîcheur dans tout ce milieu de séries que tu as déjà abandonné.
Oui, il y en a quand même énormément.
Beaucoup, pour beaucoup, déjà mortes nées dans ta tête. Mais oui. Bon, voilà.
Voilà. Donc ça, c'était My Crazy Ex-Girlfriend. On passe à la suite. C'est une série qui était très attendue, en tout cas, qui a beaucoup fait parler d'elle cet été, notamment parce que le pilote avait fuité. qui s'appelle Supergirl. Cette fois-ci, c'est sur CBS et ça nous propose quoi ? Ben, ça nous propose de suivre l'histoire de la cousine de Superman.
Je sais pas pourquoi, je te sens déjà un peu désabusé. Mais présenter comme ça la cousine de Superman, je n'ai pas envie.
Présenter comme ça, ça donne pas envie, c'est vrai. N'ayant jamais regardé vraiment les films ni même les séries qui parlent de Superman, c'est son côté propre qui m'a toujours un petit peu rebuté. J'ai jamais trop eu envie d'aller voir ce que ça donnait. Et c'est vrai que Supergirl a aussi ce côté très lumineux, très propre sur lui, finalement très héros sans véritable profondeur, en tout cas sans grand débat intérieur avec ses démons ou ce genre de choses-là, comme il peut y avoir dans beaucoup d'autres séries. De super-héros, évidemment, j'entends par ici. Ici, Supergirl, eh bien, nous avons donc cette très jeune fille qui est stagiaire dans un organe de presse, encore une fois, hein, et qui va se révéler lors d'un possible accident d'avion, avoir des super-pouvoirs qui vont lui permettre de sauver la situation, par la même occasion d'ailleurs aussi sa sœur, plus ou moins, enfin c'est pas sa vraie sœur, mais enfin sa sœur d'adoption, et révéler à la ville qu'il y a un nouveau héros sur lequel il faut pouvoir compter. Alors, j'en ai vu deux épisodes. Le premier épisode était assez classique, sans grande surprise ni quoi que ce soit. Le deuxième épisode, malgré tout, m'a fait me dire que j'allais pas abandonner tout de suite. Est-ce qu'il y a un espoir éventuellement qu'on mène un petit peu un débat féministe dans cette série-là, pourquoi pas?
Ça te titille toujours. Hein,
est-ce
ça,
que
voilà. T'es curieuse?
Ben en tout cas, il y a suffisamment peu de super-héroïnes pour que je prenne la peine de les suivre quand même un minimum. C'est pas sûr que ça dure très très longtemps, mais j'ai pas totalement abandonné l'espoir.
T'as pas encore abandonné? À contrario, j'ai l'impression qu'on pourrait très vite être fortement déçu par rapport à la question féministe.
Oui, probablement. Mais en même temps, c'est pas grave en soi. Hein. C'est quand même la grande majorité des séries qui, ben, parce qu'elles ne se posent jamais ces questions-là, finalement, sont très souvent sexistes sans même s'en rendre compte. Là, y a quand même une petite volonté derrière. Peut-être que ce sera mal fait, peut-être que ce sera raté, mais au moins, peut-être qu'il y a un petit peu une volonté de d'y ajouter ça. Donc, quand il y a un effort, bah, ça vaut quand même la peine de jeter un œil, quoi.
Bien.
Voilà. Ça, c'était pour Supergirl. Je passe ensuite à une série ABC qui s'appelle Wicked City. Alors, de quoi s'agit-il dans Wicked City ? On nous propose de suivre un psychopathe, serial killer de femmes.
Oui, il m'énerve déjà, celui-là aussi.
Qui va donc jouer un jeu de chat et souris avec la police dans les années 60-70, je dirais, dans Los Angeles. Oui, et il faut rajouter à ça une sorte d'histoire d'amour assez malsaine qu'il va nouer avec une femme qui ne va pas être finalement sa victime, quoique, hein, on ne sait jamais, les futurs épisodes risquent peut-être de me démentir, mais qui au contraire va petit à petit devenir sa complice grâce à son charme et... Donc, elle succombe totalement à l'envie de meurtre que lui apporte cet homme-là. Le casting est très, je trouve, alléchant pour l'histoire en question. On a Jérémy Sisto en flic, ben on sait que Jérémy Sisto est capable de faire le job puisqu'il le faisait très bien dans New York, New York Police Judiciaire ou je sais plus quoi, Law and Order quoi. On a Ed Westwick qui est le serial killer. Il jouait déjà très bien le mec assez louche et pervers dans Gossip Girl, donc pourquoi pas non plus. La fille qui va avoir une relation assez malsaine avec lui, on la connaît de... comment elle s'appelle ? Oui, Parenthood.
Oui, c'est Parenthood.
Et ça fait super plaisir de la voir dans un rôle un peu moins gnangnan.
Un peu vilaine.
Un petit peu vilaine. Donc tout ça donne plutôt envie, en fait. Le casting, moi, ça, ils campent tous des rôles dans lesquels on a envie de les voir aller à fond, quoi. Sauf que le scénario est super mal écrit.
Oui, l'histoire est un peu à dormir debout.
Non, l'histoire à la limite, enfin le principe, pourquoi pas.
Oui, mais
sauf que c'est écrit avec 10 pieds, mais c'est mal écrit quoi. C'est vraiment lamentable de qu'on paye des gens pour écrire aussi mal.
Ils sont peut-être pas payés. Hein. T'as peut-être identifié le problème.
Tu crois qu'ils sont pas payés?
Oui, ils se vengent.
Mais écoute, oui, peut-être qu'ils ont des esclaves qu'ils forcent à travailler pour rien dans les caves de Hollywood, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est très dommage parce que le casting aurait pu vraiment faire quelque chose de bien et on se retrouve avec finalement un truc assez similaire à ce qu'on a eu avec Aquarius cet été, c'est-à-dire une histoire qui est censée être très perverse avec un serial killer vraiment malsain. On a envie d'aller dans cette perversion-là, mais c'est tellement con que, enfin, on n'arrive juste pas à adhérer au truc. Quoi.
J'en connais qui seraient super frustrés d'avoir un peu de perversion qui débarque et aller jusqu'au bout de la chose.
Ben oui, mais bon, voilà.
Voilà. Ok, ben on a compris le principe. Peut-être tu continues malgré tout. Tu veux voir où ils veulent en venir ou quoi? T'es courageuse à ce point-là?
Oui. c'est même pas un guilty pleasure parce que franchement, il y a pas de plaisir.
Non, c'est par curiosité.
Mais, oui, il y a vraiment une curiosité malsaine à voir jusqu'à quel point ils peuvent être mauvais. Je sais pas. Ça va probablement pas durer, hein, mais pour le moment, j'ai vu 2 épisodes et je regarderai, à mon avis, un 3e, malgré tout, par acquis de conscience, je sais pas. Voilà.
Merci. Bon, alors.
Mais de rien.
T'as encore quelque chose, là, parce que très franchement, le chrono, il me dit. Il faut se taire.
Tu crois que.
Ben, je crois.
Bon, d'accord.
T'es puni, t'avais encore quoi? Tu devais nous parler de quoi comme
Je
ça
voulais parler de Master of None, mais comme c'est une série que j'adore et que je veux défendre absolument, j'en parlerai la semaine prochaine.
Ce sera pour la semaine prochaine, je trouve que c'est une très bonne idée. On va marquer une petite pause musicale avec un titre des années 80. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, il se passe rien, mon vieux. Je mets ce que je veux.
Tu aimes la New Wave allemande?
Oui, pourquoi pas.
Voici venir Nena.
Oui, Nena avec 99 Love Balloons, entendu dans Deutschland 83. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont? Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Und dass sowas von sowas kommt. Thank you.
Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen.
Mais nous voilà de retour pour le sujet du jour dans Série Folie, les séries et les villes.
Ben oui, étonnamment.
Un sujet léger où j'aurais peut-être ma part de choses à dire, peut-être.
Mais oui, tu rouspétais parce que non. La dernière fois, t'avais pas pu en placer une. Donc
moi, je te laisse dans ton monologue, mais parfois, je me sens un peu inutile. Enfin, non, allez, je fais la technique de ton émission, c'est déjà pas mal.
Donc, je me suis dit, allez, je vais aujourd'hui un petit peu le faire participer.
C'est gentil. Pas de questions géographiques, hein, parce que
non,
je suis.
Oui, moi aussi. Donc, on est deux sur ce point. Il n'y a pas de souci. Étonnamment ou pas. D'ailleurs, hein, chaque fois qu'on parle d'une série, on identifie très très rapidement, surtout d'ailleurs quand il s'agit des séries américaines dont on est peut-être plus habitué que d'autres, un lieu dans lequel se passe l'intrigue. C'est souvent très marqué. Alors ça peut être dans une grande ville, et alors justement on peut repérer assez facilement, dès qu'on a une nouvelle série, on repère assez vite dans quelle ville ça se situe, parce que c'est soit souvent les mêmes bâtiments qui sont montrés, soit tout simplement parce que l'ambiance qui nous est retranscrite est souvent la même. Par exemple, une ambiance très feutré, très très intello quand on est dans les séries plutôt qui se situent à Boston, une ambiance peut-être un petit peu plus monde des affaires, un peu hype aussi peut-être pour tout ce qui se passe plutôt à New York, et puis peut-être pour d'autres villes, encore d'autres ambiances, par exemple des ambiances beaucoup plus latino, beaucoup plus fun, beaucoup plus ensoleillé dès qu'on se déplace du côté de Miami, comme c'est le cas dans Dexter, ou bien du côté de même Los Angeles, comme c'est le cas dans beaucoup de séries qu'on pourrait citer. Par exemple, si je te demande de citer une série qui se passe, à Chicago, est-ce que t'en connais ?
Oui, j'en connais une, Chicago Fire.
Bien vu.
Il n'y avait pas de piège, hein. C'était facile.
Non, franchement, là, t'as choisi un peu la facilité.
Désolé.
Ok, plus difficile, à Seattle.
À Seattle, mais il y a Holder et je ne sais plus le nom de la charmante dame pour The Killing.
Oui, The Killing US, en effet, qui se passe à Seattle. Ce qui est marrant avec Seattle, c'est que si on regarde Grey's Anatomy, ça se passe aussi à Seattle, mais t'as pas du
tout
l'impression.
On n'a pas la même ambiance.
C'est la même ville que dans The Killing.
The Killing, c'est un peu déprimant, mais j'adore. Mais bon, voilà. Est-ce que maintenant, au niveau de Seattle, c'est vraiment filmé là-bas, ou est-ce qu'ils vont encore plus dans le nord, côté Canada, pour filmer leur série?
Oui, je crois que d'après ce que j'avais lu, c'était au Canada que cette série-là avait été.
C'est peut-être pour ça qu'elle est encore plus déprimante.
Je sais pas.
Dieu sait si j'aime les Canadiens.
Dis tout de suite que le Canada est une terre de suicide.
Non, du tout. Mais bon, c'est quand même vachement au nord. Il y fait pas souvent chaud. Il pleut tout le temps. Donc voilà, il faut aller chercher ce type de météo, quoi, en gros.
Mais écoute, je crois que l'Office du tourisme du Canada te remercie d'avance pour cette
désolé,
description.
Désolé, mais bon, il y fait très beau en été, mais il peut très vite devenir... l'hiver est très, très, très rude, et surtout, mon nouveau, l'automne peut durer comme en Belgique, quoi, tu vois.
Oui, d'accord.
Il pourrait même tourner la série de Killing... en Belgique, hein, ils y arriveraient très bien.
Ah, ça donnerait à peu près le même effet au niveau de la pluie, c'est vrai.
C'est peut-être pour ça que j'aime bien cette série, c'est que je m'y retrouve, je me sens chez moi.
T'as l'impression d'être chez toi, oui. Ok. Alors il y a d'autres villes, peut-être, par exemple, la Nouvelle-Orléans.
Ah, il y a Tremé, notamment.
Bah oui,
superbe
évidemment.
Ambiance qui a été rendue. Et alors, bon, ils ont un peu cassé l'ambiance avec une des saisons de American Horror Story.
La troisième saison d'American Horror Story, oui. Qui était aussi, qui voulait aussi jouer sur tout le folklore de la Nouvelle-Orléans, mais qui était tellement chiant. que bon, c'était un peu raté. La Nouvelle-Orléans, il y a aussi The Originals qui se situe à la Nouvelle-Orléans. Dans la Louisiane en général, on avait quoi?
Bonne question.
La saison 1 de.
Ah, mais il y avait nos amis de True Detective qui
étaient
traînés par là.
Voilà, la saison 1 de True Detective qui se trouvait dans le même état.
J'ai pas envie que tout se ressemble. C'est de la mangrove, il fait chaud, on sue avec eux, il y a des crocodiles et tout va bien.
Mais t'es quoi, super doué
une
pour...
Une nouvelle fois, j'ai cassé l'ambiance. Moi, franchement, j'ai envie d'y aller au Canada. J'ai envie d'aller à la Nouvelle-Orléans. J'ai pas peur des crocodiles. Tu comprends? Je prends mon couteau entre les dents.
Ok. Bon, bref. Miami, on a déjà cité Dexter.
Oui, il y a Dexter, il y a Miami Vice, hein, deux flics à Miami. Série mythique des années 80, oui, certainement.
Oui.
Ils ont mal vieilli, les Yaya.
C'est juste leurs vêtements.
Oui, mais même eux, hein, quand tu vois Don Johnson maintenant, tu te dis...
Ah oui, mais...
C'était mieux avant.
Il n'a pas fait un retour très, très heureux cette année-ci, il faut l'avouer.
Voilà.
Et il y a aussi, évidemment, les experts Miami.
Ah oui, avec le requin.
Mais oui, mais c'est qui a fait le coup? Mais c'est toujours le requin, figure-toi. En tout cas, une fois sur deux.
Au moins, c'est original, il ne l'attrape jamais en plus.
À mon avis, c'est un autre requin à chaque fois. Hein, et
soyons honnêtes
d'un point de vue purement espèce animale. Dans toutes les autres séries, c'est toujours des humains.
Ouais, non, hein, ils sont originaux.
Non, franchement, ça se tient, moi je trouve. Alors, à Baltimore.
Baltimore, une ville qu'on a envie de visiter grâce à The Wire.
Ouais, tout à fait.
On a envie de visiter très vite. Hein, après, on s'en va. Mais juste voir l'ambiance. Et il y a eu aussi ces deux corners qui auraient été tournés là-bas.
Deux corners, je suppose. Hein. Voilà. Et aussi, à mon avis, Homicide était aussi une série policière qui se situait à Baltimore, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. À Détroit.
Détroit. Alors là...
C'est plus difficile.
Oui, j'ai déjà vu des reportages sur Detroit, mais non, comme ça ne me dit rien.
Il y a eu une petite mode pour Detroit il y a 2 ans. On avait la série Low Winter Sun qui était censée plus ou moins prendre la relève de Breaking Bad sur AMC, mais ça s'est planté au bout d'une saison, donc ça n'a pas été beaucoup plus loin. Mais qui nous montrait quand même assez bien la désolation et l'abandon de la ville qui venait de se déclarer en faillite à peu près à cette époque-là. Et puis il y a aussi la comédie Undateable qui, à mon avis, ne montre jamais rien de Détroit. Ils disent juste qu'ils sont à Détroit, Mais c'est probablement même pas tourné à Détroit non plus, donc je sais pas trop pourquoi ils ont voulu se situer dans cette ville-là.
Par solidarité.
Oui, c'est ça, voilà. Vraiment pour parler de cette ville-là à la télévision. Las Vegas ?
Las Vegas, oula. À Las Vegas, vraiment ?
Bah, oui, à part les experts. Il y a, cette année-ci, il y avait The Player qui se situait à Las Vegas.
Ouais. Une nouvelle fois, une ville qui ne m'a pas vraiment marqué quand je l'ai traversée. Voilà, c'était rempli de casinos et de lumière, mais à part ça, bon. Ouais, t'es content de reprendre le chemin vers le désert.
On a compris, tu n'aimes pas Las Vegas, on n'en parle plus. Une série qui est assez intéressante, parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, elle est accrochée à aucun territoire, c'est Supernatural, parce qu'ils passent leur
partout.
Temps à aller autant à l'est qu'à l'ouest, au nord qu'au sud. Mais finalement, le territoire de Supernatural, ce sont les États-Unis.
La campagne même. Ils sont rarement dans les grandes villes.
Oui, mais ça arrive. Ça arrive dans certains épisodes qu'ils soient dans les grandes villes. Mais en même temps, le territoire est plus occupé par de la campagne que par des grandes villes. Ça ne t'aura pas échappé. Donc, voilà, Supernatural. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans l'épisode dans lequel ils montrent un peu les coulisses de la série... je ne sais pas du tout quelle est la part de fiction, quelle est la part de réalité dans cet épisode-là, mais en tout cas, ils disent qu'ils filment la série au Canada également. Donc,
c'est dire.
Ce qui choque évidemment énormément Dean Winchester, qui lui est un pro-américain pur de dur et qui trouve absolument insupportable cette idée de se trouver en vérité au Canada.
Ben oui.
Bon.
C'est souvent le cas, malheureusement.
Donc, évidemment, on peut quand même constater qu'il y a une grande différence entre la représentation qui nous est donnée autant du nord que du sud et autant de l'est que de l'ouest. L'est étant généralement représenté comme beaucoup plus intello, beaucoup plus chic, et l'ouest... beaucoup plus comme le lieu de tous les dangers, de toutes les violences, de tous les vices également.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu un reflet d'une certaine réalité ?
Aujourd'hui, je trouve que tu fais de ces généralités...
Mais non, mais c'est pas vrai, mais en même temps. Est-ce que ton expérience vécue à New York est la même que celle en Californie où tu vois... débarquer des quarts, des hordes de migrants latinos.
Ah, bon, tu veux nous lancer vraiment sur
non,
le débat?
Non, je ne sais pas, mais l'ambiance est tout à fait différente. Et je n'ai rien contre les populations latinos qui peuplent ces contrées. C'est pas ça, hein, le débat. Le débat, c'est juste qu'à New York, t'en vois moins.
Ok, je crois qu'on va s'arrêter avant vraiment que tu commences à
déraper.
Oui.
Mais non, je suis quelqu'un de très gentil et courtois, mais non, clairement, dans le désert, l'ambiance est tout à fait différente qu'à New York, qu'à Boston, qu'à Philadelphie. On a oublié de parler de Philadelphia. Voilà.
C'est pas faux, mais en même temps, à part It's Always Funny in Philadelphia...
T'en connais pas d'autres?
Mais il y en a sûrement, mais tu sais, il y en a tellement qu'on oublie forcément.
Une nouvelle fois, et je suis sûr, ils n'ont pas le même humour que sur la côte ouest, quoi. Voilà.
Oui, probablement. Probablement, Ben.
Bon, pardon.
Et une autre différence, enfin, c'est entre les séries qui se passent dans les villes, qui sont quand même, j'ai l'impression, une majorité... les grandes villes connues, hein. Et puis les séries qui se passent dans les plus petites villes, plus à la campagne, etc., où l'ambiance est là aussi très très différente. Mais on va en parler bien davantage après, puisque justement toutes ces petites villes, bien souvent, sont des villes fictives.
À tout de suite. On se quitte là quelques instants avec de la musique peut-être.
Ah oui, en effet, il s'agit de Country House de Blur, entendu dans My Mad Fat Diary. Thank you.
who's going in.
City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. In the country, watching afternoon repeats and the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jolly. Touch with his own mortality. And looking back, close a helping hand that makes you feel blind. Right. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country, in the country, in the country.
Voilà, on est déjà de retour. On va parler maintenant de ces séries qui sont tournées dans des plus petites villes en campagne. J'en ai déjà une qui va te piéger là tout de suite. On avait dit que bien souvent elles étaient fictives. Moi, je veux te parler d'une que j'apprécie beaucoup, une ville qui moi m'a marqué à fond de par leurs personnages. Je crois que tu as déjà peut-être compris de quoi
oui,
je vais parler.
Oui.
C'est de Deadwood.
Ah,
ah non, et non. Voilà, Deadwood, qui est une ville qui existe en fait aux États-Unis.
Oui.
La série a été évidemment tournée dans des studios puisqu'ils nous montraient l'époque du Far West.
Mm-hmm.
Mais voilà une ville intéressante que j'aurais voulu connaître si elle avait ressemblé à ça à l'époque.
Oui, oui, c'est vrai que ça aurait plutôt été marrant d'aller visiter ça. Je me demande d'ailleurs. À mon avis, c'était construit en dur. Hein, c'était.
Moi, j'ai vu des photos de la ville actuelle, et donc tu vois encore plus ou moins le style architectural choisi et les allées. Enfin, vraiment une ville de Far West et de Western. Mais oui, c'était peut-être pas tout à fait ça. Mais voilà, c'est moi l'image que je veux garder des bons Western américains. de cette époque-là, si j'avais dû vivre avec mon cheval et mon chapeau de cow-boy, j'aurais voulu vivre à Deadwood.
D'accord, on en apprend aujourd'hui sur toi.
Et donc, je ne sais pas pourquoi, c'est quelle série, toi, que tu croyais que j'allais te mettre en avant?
Mais je croyais que tu allais me parler de Friday Night Lights.
Ah oui, aussi, mais je ne me souviens même pas du nom de la ville, c'est
Dillon.
Ah oui, Dillon, mais là, qui est une ville tout à fait fictive.
Oui. Voilà. Exactement. De fait, parfois, ils reprennent l'un ou l'autre nom d'une ville qui existe vraiment. Parfois même, ils se situent dans cette ville-là, mais sans plus. Par exemple, The Office US se situe bien, je crois, hein, à Scranton, en Pennsylvanie. Mais on n'en montre quasiment aucun des aspects de cette petite ville-là. De même, est-ce que vraiment, en regardant Breaking Bad, on a l'impression de connaître Albuquerque plus que ça? J'ai pas
non.
Vraiment l'impression. Il y a comme ça certaines séries qui se situent dans des lieux qui existent vraiment, mais sans qu'on ait totalement l'impression d'en avoir saisi l'ambiance générale. Par contre, il existe énormément de villes fictives qui ont été inventées pour l'occasion.
Est-ce que c'est le cas de celles dont on entend le générique maintenant?
C'est le cas de celle dont on entend le générique maintenant, dans la mesure où apparemment il existe très bien des villes qui s'appellent Pawnee, mais celle-là
pas...
en particulier. Surtout quand même, il lui donne toute une âme, tout un folklore, etc. Du coup, cette ville est de plus en plus construite de toutes pièces, un petit peu comme par exemple Springfield. Il existe plein de Springfield un peu partout aux États-Unis, mais en même temps, il n'y en a aucune qui ressemble au Springfield des Simpsons, parce que tout simplement, au fur et à mesure des épisodes, ils ont rajouté tellement de choses dans cette ville que elle pourrait se situer. En fait, elle est partout, quoi. Mmh. Vu qu'on a autant des canyons que des, des grandes rivières sauvages ou que sais-je encore.
On y ajoute tous les éléments de géographiques dont on a besoin pour le récit.
Oui, voilà. Donc, on a vraiment tout ce qui existe aux États-Unis est concentré dans Springfield. Alors, on a évidemment aussi des grandes mégapoles fictives, mais c'est généralement davantage dans les séries qui nous représentent des super-héros, tout simplement parce qu'elles reprennent les noms des villes qui étaient déjà présentes dans les comics, par exemple, évidemment, Gotham City, Metropolis, National City, Starling City, enfin, on a toute une... toute une ribambelle de city. Ça, ce sont pour les mégapoles qui, généralement, ressemblent quand même assez fort la plupart du temps à New York, tout simplement. Hein. Faut pas se casser la tête beaucoup plus loin que ça. Par contre, pour ce qui est des petites villes, on a une grande variété qui va nous permettre, à travers ces villes fictives, de nous montrer beaucoup plus l'ambiance réelle qui peut exister dans certains coins particuliers des États-Unis. Par exemple, si tu vas à Capside, tu n'as pas du tout la même ambiance que si tu vas à Bontemps.
Oui, je suis bien d'accord.
Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas à, par exemple, disons, à South Park.
Mm-hmm.
South Park qui a existé, parce qu'apparemment c'est le nom d'une ville fantôme du Colorado.
Bien
je
possible.
Me suis renseigné.
Ça ne m'étonne pas d'eux.
Écoute, c'est vachement bien trouvé, je trouve, comme idée de donner le nom d'une vraie ville, mais d'une ville fantôme à leur ville fictive. South Park, par exemple, n'a rien à voir avec Charming. Quoique, parfois, quand ils foutent trop le boxon, ça peut ressembler.
Oui.
ça peut finir par ressembler à Charming, mais on sent que au niveau du climat, c'est pas la même chose. Au niveau des personnages qu'on y rencontre, c'est pas la même chose. Par exemple, forcément, pour le moment, tout le monde s'émerveille un petit peu du caractère bon enfant des personnages qu'on retrouve dans Fargo, mais de fait, il y a une ambiance de ce terroir-là de Fargo. Je sais même pas si ça existe vraiment, la ville de Fargo. Ça, je me suis pas renseignée par contre. Mais
chez Monio.
Cette ambiance-là est très différente aussi d'une ville comme Agrestic. Je sais pas si tu te souviens c'est la ville de la série Weeds.
Oui, tout à fait.
Agrestic. On a aussi, par exemple, évidemment, Pony. On a dans Desperate Housewives, on se trouve à Fairview. Et Fairview, finalement, on en connaît quasiment rien, puisque là, le territoire est encore plus ramassé, puisque finalement, il se réduit à un quartier qui est la rue de Wisteria Lane.
Oui, qui en plus est complètement dans des studios. Donc. C'est un peu difficile de se raccrocher à une ville ou un village qui existerait, tu vois.
Oui, c'est d'accord, mais enfin beaucoup de celles que je cite se situent dans des studios, hein.
Oui, non, mais je comprends bien. Mais bon, les scènes d'extérieur dans la plupart des séries que tu as décrites jusqu'à maintenant, elles vont quand même se faire là-bas, tu vois. J'ai l'impression, quand tu es dans des bâtiments, je comprends bien que tu es en studio. Mais Desperate Housewives, tu vois tellement que ce monde est restreint, tu vois, on l'a tellement montré, on l'a tellement vanté comme étant la rue qui est vraiment reconstruite à l'identique dans un studio que voilà.
Oui, d'accord, mais bon, par exemple, si tu regardes Buffy, Sunnydale, c'est la même chose, hein.
Oui.
La rue est tout à fait
fake. Elle est en carton-pâte. Oui, ça je ne dis pas.
De même, et là c'est un petit peu plus dommage parce que quelque part, ça existe vraiment et il y aurait eu moyen dans Seinfeld, énormément des scènes que tu vois dans les rues de New York sont en fait filmées dans les studios de l'autre côté des États-Unis. Et ça se voit aussi, en effet. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre comme on a aussi parfois, donc c'est vraiment restreint à un quartier comme dans Desperate Housewives. Parfois c'est un petit peu plus grand et on a des petites villes comme Storybrooke, comme Heaven, comme Banshee, comme Tree Hill aussi. Enfin on en a plein comme ça, et puis parfois ça s'étend à un comté, par exemple dans My Name is Earl.
Oui, justement, là c'est un peu plus difficile à cerner. On comprend bien où est la région, mais on n'a pas un nom réel de ville, si tu t'en souviens.
C'était le comté de... Je m'en suis souvenu tout à l'heure et puis je ne l'ai pas noté, donc forcément...
Il l'identifie malgré tout, mais bon, voilà.
C'est Camden. Le comté de Camden.
Ouais.
Voilà. À nouveau, est-ce qu'il existe ou pas ? Je n'ai pas vérifié. De même dans Longmire, là aussi, c'est un comté entier et c'est évidemment aussi intéressant puisque on a différentes ambiances en fonction du territoire qu'occupe la série. On a des ambiances très très feutrées et très ramassées sur soi quand ça concerne des toutes petites villes, et puis des ambiances beaucoup plus libres, nous montrant le territoire, en tout cas certains aspects du territoire américain, tels qu'on a moins l'occasion de les voir généralement dans les séries. D'ailleurs, autant on peut pas vraiment dire qu'on connaisse beaucoup de Albuquerque en regardant Breaking Bad, mais par contre on voit très bien les déserts.
Oui, mais c'est là que je veux dire, ça c'est une série qui me fait dire oui, là ils ont fait l'effort d'aller tourner au minimum dans un décor qu'ils voulaient, ils n'ont pas su le recréer en studio, tu vois.
Oui, c'est vrai que ça se voit assez vite. Et je crois qu'il y a, une tendance de plus en plus quand même à essayer de tourner dans des décors naturels. C'est quand même beaucoup plus joli.
C'est plus joli. Hein.
Eh ben oui.
Bon, petite question piège avant de remettre de la musique. The Middle, tu sais où ça se situe plus ou moins? On voit
c'est
où
Orson,
aller.
Voilà. Orson, et c'est dans quel étage, j'ai oublié là tout de suite. Mais
ils vont à l'UNIF, enfin, il y a certainement des lieux qui sont cités.
Mais c'est dans l'Indiana, je crois.
Voilà. Mais là, c'est comme ça, ma curiosité du moment, c'était dans mon esprit là depuis que tu parlais, et je voulais savoir un peu où ça se situait. Merci à toi, on va revenir dans quelques minutes si tu veux bien, avec là tout de suite dans nos petites oreilles de la musique.
Oui, tout à fait, et ça va même un petit peu déménager pour une fois, puisqu'il s'agit de River Below de Billy Talent, entendu dans Smallville.
Nous revenons déjà pour la dernière fois, dernière partie de cette émission, où on va tenter de clôturer le sujet de manière un peu résumée.
Oui, on va essayer de donner quelques conditions qui expliquent peut-être pourquoi les séries sont aussi attachées à un territoire. Alors évidemment, la première des raisons, la plus évidente, c'est tout simplement les conditions de production et des raisons économiques. On sait tous que en fonction éventuellement des avantages que peut proposer tel ou tel état. Parfois, une série va se dérouler plutôt là qu'ailleurs, alors que c'était pas du tout prévu. On sait que c'était le cas pour Breaking Bad, par exemple, mais c'est probablement le cas pour d'autres séries aussi.
On sait notamment que la plupart des séries qui parlent de New York sont filmées à New York.
On sait aussi, en effet, que quand ce sont des séries qui se situent à New York, il y a beaucoup plus de chances que ce soit filmé dans un milieu naturel que lorsque ce sont des séries situées plutôt à Los Angeles, par exemple. Donc ça c'est aussi évidemment une chose qu'il faut savoir et qui donne forcément une ambiance différente. Peut-être aussi que ça explique le fait que l'ambiance qu'on ressent des séries qui sont situées plutôt à Los Angeles nous paraissent plus fake, plus bling-bling, enfin moins authentique que les séries situées peut-être dans certaines grandes villes de la côte Est, comme ça peut être le cas de New York ou peut-être même de Boston. Je sais pas trop dans quelles sont les conditions de production pour les autres villes. Donc ça, c'est une première chose. Alors, comme on l'a dit aussi, pour certaines villes qui sont particulièrement en difficulté, comme ça a été le cas de la Nouvelle-Orléans et puis de Détroit, il y a probablement aussi un effet d'actualité. Ces villes sont mises dans l'actualité, peut-être aussi comme elles sont en difficulté économique.
Un peu de solidarité.
Elles poussent à la solidarité, ou bien elles offrent des conditions économiques particulièrement favorables pour que des gens se disent que ça devient intéressant d'aller filmer là-bas. Et du coup, il y a une sorte de mode qui peut se mettre en place certaines années où on retrouve plusieurs séries dans les mêmes villes alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est une autre cause possible. On a aussi le fait que situer les personnages, les intrigues dans des villes qui existent vraiment, et même d'ailleurs dans des villes fictives aussi, ça permet un ancrage dans une culture, dans une réalité. Ça donne plus d'ampleur aux personnages que si on les situait dans un truc dont on ne sait pas trop ni où ça se situe, ni sous quel climat, ni rien du tout. D'ailleurs, je crois que ça a été très longtemps un des problèmes des productions européennes qui, sous prétexte que c'était segmentant de situer vraiment ces personnages dans un lieu particulier, dans une culture particulière, essayaient peut-être d'être un peu plus vendeurs en étant un peu vagues là-dessus. Et du coup, ça marchait pas du tout. Évidemment, on peut pas nier aussi que l'avantage d'être dans un énorme territoire où l'anglais est quasiment la langue parlée officiellement partout permet beaucoup plus de choses, mais je crois que une des choses qui a permis notamment à une série comme Les Revenants d'attirer tout à coup l'attention, c'est que Les Revenants se situaient véritablement dans un territoire, et c'était quelque chose qu'on retrouvait assez peu dans d'autres séries, notamment françaises, auparavant. Et d'ailleurs, les séries nordiques qui ont aussi fonctionné sont aussi des séries qui se sont véritablement ancrées dans le territoire dans lequel se passait leur intrigue, et je crois que c'est très important pour donner un peu d'ampleur et de réalité au récit. Alors forcément, ça permet de donner une ambiance particulière à la série, hein, on l'a dit, en fonction de qu'on soit en ville ou à la campagne, qu'on soit à l'est ou à l'ouest, on n'a pas du tout la même ambiance qui est retranscrite. Et enfin, on a l'importance de l'idée de communauté qui transparaît dans cet ancrage des séries, autant pour l'identité du héros que pour la notion assez importante de service rendu à la collectivité qui peut transparaître. L'individu, finalement, dans la mentalité américaine, n'est jamais totalement seul. Il est toujours en lien avec une communauté. Et je crois que ça démontre aussi une certaine façon de penser très américaine qu'on reconnaît peut-être moins dans les séries européennes.
Bien, ce sera le mot de la fin, Aurore.
Merci. Mais oui, à toi. Forcément.
On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pleine forme. Alors, Série Folie est évidemment disponible sur Internet via son site Internet, le www.seriefolie.be, Série Folie en un mot avec un S à série, les réseaux sociaux, et puis, vous le savez, l'émission débarque en podcast très bientôt.
Oui.
À la semaine prochaine, Aurore, on se quitte en musique.
Oui, on va s'écouter pour une fois Jacques Dutronc avec Paris s'éveille, entendu dans Master of None.
Bien, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h, je n'ai pas sommeil.